Messieurs, quand les enfants ne peuvent pas se saouler de grand air et de vitesse, il faut bien qu'ils aient usé leurs nerfs quelque part. Ils vont au cinéma. Et là, ils se pâment devant les performances de Tintin, le bel effroi. Quand ils ne s'excitent pas sur les jambes de la star ou de la vampe.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas trop bruit. T'as pas le d'or.
Une heure, tout.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel ?
Una art to vous. Alors, go away now.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
Il n'y a pas de vieux films, il y a des films, de même qu'on ne va pas au musée regarder de vieux tableaux, des films qui jalonnent l'histoire du cinéma et des cinéastes derrière ces œuvres. Revisité, réhabilité, parfois grâce à la flamme entretenue par les gardiens du temple. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
La passion qui l'anime est intacte, sa mémoire immense et ses amours subjectives. Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour.
Le plus cinéphile d'entre tous, après le film Voyage à travers le cinéma français, voici la série documentaire en DVD. Une plongée dans notre cinéma des années 30 aux années 70 en 8 épisodes qui rapproche et compare les films de vos cinéastes préférés, Crémillon, Ophuls, Renoir, Tourneur ou Duvivier pour ne citer que, et d'autres remis en lumière, comme votre papa Henri Decoing. Bonjour Didier Decoing.
Bonjour Christine.
Il y a quelques années, vous lui avez consacré un livre merveilleux, Henri ou Henri, pour raconter l'homme derrière les films. Un type formidable, honnête, droit et un excellent réalisateur, dit Tavernier, et sur lequel bien sûr nous reviendrons, puisqu'il fait partie de cette grande série documentaire. Enfin, le cinéma de nos jours et ses nouvelles sorties, Amanda en tête, You Made In, Les Bonnes Intentions, Mauvaises Herbes, Les Filles du Soleil, plus le premier film de Paul Thomas Anderson, Hard Eight, c'est parti.
Ça doit vous amuser, hein, l'homme qui ne sait pas ce qu'il dit, qui bafouille, parce que je me rends compte que je ne sais pas ce que je dis. En tout cas, je vous prie, avec moi, vous perdez votre temps.
Je ne pense pas, ce petit jeu-là.
Je suis un homme simple, moi.
Non, ceux qui sont simples font pas tant de bruit pour cacher ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas honte de leurs désirs, de leurs plaisirs. Vous n'êtes pas saint, vous êtes comme les autres, comme les hommes. Vous êtes plein de scrupules, de délicatesse et vous n'arrêtez pas de réfléchir. Mais en ce moment, vous pensez des choses que personne ne saura jamais. Et même si vous vouliez parler, si vous vouliez être sincère, vous ne pourriez pas, vous parleriez tout de travers, sans le vouloir, pour tout cacher.
Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous intéressez comme ça à moi? Qu'est-ce que vous attendez, moi? Mais si, parlez. Parlez, puisque vous dites tout ce que vous pensez. Alors qu'est-ce que vous attendez, moi? Qu'est-ce que vous voulez?
Et vous, qu'est-ce que vous voulez ?
Vous.
Écoutez, chut, taisez-vous.
Gabin, Morgan dans Remorque de Jean Grémillon, un cinéaste qui a immédiatement fait partie de votre vie, Bertrand Tavernier, et qui ouvre cette série documentaire Voyage à travers le cinéma français, et dans laquelle vous approfondissez votre quête, vous rapprochez et comparez aussi les films de vos cinéastes préférés avec une subjectivité assumée.
Oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas historien de cinéma, je ne suis pas critique de cinéma. Donc, j'ai envie de parler des films qui m'ont bouleversé, qui m'ont ému, qui m'ont touché. Et parmi eux, bien sûr, il y avait les films de Grémillon. Et déjà, quand je réentends cette scène, je suis incroyablement encore ému par le dialogue de Prévert, par le jeu de Gabin Morgan, par la musique derrière. La très, très belle musique de Roland Manuel, que, je veux dire, quelqu'un qui, quand même, s'y connaît un peu, qui était Henri Dutilleux, considérait comme l'une des deux ou trois plus belles partitions de tout le cinéma français. Ce qui est pas mal comme éloge. Et vraiment, et je crois, on va, d'ailleurs, à Radio France, il y aura un concert où on va enfin pouvoir écouter cette musique en concert, en janvier. Et c'est un de mes amis, le compositeur Louis Dunoyer, comme il n'existe aucun disque, qu'il a relevé à l'écoute pour pouvoir en écrire une partition et pour pouvoir que ça puisse se jouer. Là, ce sera grâce à ma série, on va ressusciter aussi un certain nombre de partitions. La vérité sur Bébé Donge, musique extraordinaire de Jean-Jacques Grunewald, qui est du bien avant la lettre du Philippe Glass, avec simplement, m'a dit Louis Dunoyer, qui est en train aussi d'y travailler, il me dit, la différence, c'est que les harmonies de Philippe Glass sont basiques, Et les harmonies de Grunewald sont extraordinairement sophistiquées.
Bertrand Tavernier, on cite Grémillon, Ophuls, Renoir, Tourneur, Duvivier. C'est des compagnons, ce sont des compagnons de vie pour vous.
Oui, comme aussi Raymond Bernard, le Raymond Bernard des Croix de Bois. Et c'est un cinéaste de, j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de revoir ses films. Et d'ailleurs, dans la commémoration, j'ai revu, moi, les Croix de Bois, qui est un film, mais extraordinaire.
Mais au-delà des films, ce qui vous intéresse, ce sont les combats de ces metteurs en scène pour faire exister leurs films.
Je dirais pas au-delà des films. Il y a en effet aussi des combats, les batailles qu'ont dû mener des gens comme Duvivier, comme Lara, comme autant Lara, qui s'est battue très souvent pour l'avortement, le droit à l'avortement, et puis aussi le droit du metteur en scène à contrôler son montage. Donc moi, ça me touche en tant que metteur en scène. Je sais que je lui dois quelque chose. Je dois quelque chose au combat quand Lara, pour contrôler le montage du Diable au corps, menace le producteur d'une grève générale des techniciens si on lui laisse pas le fait de contrôler ça. Ouais. Il va obtenir quelque chose qui va bénéficier à tous les metteurs en scène des générations successives, et donc on est obligé de lui être reconnaissant. Bon, après il a dérapé, quand il a cessé de travailler, il a dérapé vers le Front National, mais il n'y a aucun de ses films qui n'endosse cette idéologie. On pourrait même, au contraire, ce serait marrant de leur faire faire une projection. De montrer qu'il défend l'objection de conscience, qu'il défend le droit à l'avortement.
C'est un libertaire, c'est un vrai libertaire.
Oui, c'était un libertaire qui est passé à la fin de sa vie, comme ça, rancœur, la solitude, je sais pas, l'impression d'être abandonné par tout le monde.
Et puis il y a des hommes de cinéma qui sont vraiment des hommes bien, comme lui, Henri de Coin.
Je crois que pour durer, il faut avoir peur. Il faut avoir peur constamment. Il faut avoir peur de la critique, naturellement. Il faut avoir peur du public. Il faut avoir peur de la censure. Moi, voyez-vous, je plains ceux qui n'ont pas peur. Je crois que une carrière de cinéaste est faite de modestie, d'humilité. Et c'est, je crois, comme ça qu'on peut arriver à quelque chose de gentil.
Henri de Coin, votre père, Didier de Coin, dont vous dites « Papa créait comme on chasse à court jusqu'à épuisement ».
Oui, l'épuisement du chasseur et de la proie.
Hein. Oui, c'est ça.
Mais c'est une sorte d'épuisement du chasseur chez lui.
Le paradoxe, quand même, c'est qu'on vient de l'entendre sur la peur, dire qu'il faut avoir peur, alors que c'est un type qui quand il avait 20 ans, traversait la Seine enduit d'huile pour récolter quelques pièces de monnaie.
Et d'huile de vidange.
Et d'huile de vidange. Ouais. Donc la peur, il connaissait pas trop. Hein.
Non, il savait pas ce que c'était la peur, mais il la respectait.
Oui.
Et il trouvait que c'était dans le fond, je crois qu'il aurait adoré avoir peur. Et je lui demandais un jour, mais pendant la guerre, par exemple, t'as eu peur? C'était tellement beau vu du ciel que non, il savait pas ce que c'était.
C'était un aviateur, un pilote de guerre.
C'était un aviateur.
Un autodidacte surtout à la base.
Ah oui, complètement. Il a quitté l'école à 8 ans.
Né pauvre, effectivement, livreur de lait à 8 ans, apprenti fourreur, champion de France de natation, journaliste sportif, combattant pendant la guerre, il a tout appris sur le tas.
Et alors, ce qui est une chose qui m'a étonné, c'est que quand il a commencé à gagner quelques petits sous, la première chose qu'il s'est acheté, c'est d'aller aux puces pour acheter des livres, et il a acheté des œuvres complètes de Schiller, qu'il n'a jamais lu. Parce que quand il a commencé, il dit, mais c'est très ennuyeux. Je n'y comprends rien. Mais ça faisait très très bien dans le, je les ai toujours d'ailleurs. Alors il avait acheté d'autres choses, l'encyclopédie Quillet. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Parce que c'était une encyclopédie où il y avait des découpages en relief. C'est-à-dire on ouvrait, alors vous aviez un paquebot, par exemple, qui se déployait avec tous ses ponts, ses trucs. Un hydravion jaune. Je me rappelle un peu comme l'hydravion dans Tintin. L'hydravion dans Tintin. Et alors il regardait ça pendant, il trouvait ça absolument. Papa, dans le fond, c'était un enfant. Hein. Mmh. Il est resté enfant jusqu'au bout.
Très fantasque, aussi, ou pas? Il vous emmenait parfois, il vous disait...
Fantastique, oui.
Fantastique. C'était votre héros.
Moi, je me rappellerai toujours un jour où il est arrivé, j'étais au collège, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, et il vient me chercher. D'habitude, c'était maman qui venait me chercher. Et il me dit, je monte dans la voiture, je dis, ah, t'es chic, c'est chouette que tu sois venu me chercher. Il dit, oui, non, mais attends, c'est parce que il faut que tu retournes prévenir ton préfet de division, ton professeur, que tu ne vas pas en classe la semaine prochaine. ni celle d'après d'ailleurs, ni non plus celle qui suivra. Mais pourquoi, je vais où? Ben tu vas sur une jonque, dans le détroit du Mékong, j'ai loué une jonque. Mais papa, pourquoi faire? Mais papa, ça ne te regarde pas, je vais faire un film là-bas, je t'emmène. Ça m'a... Mais c'est merveilleux, j'ai 12 ans. Alors, je suis allé voir les préfets de division, ça. Puis mes copains, et je leur ai dit, je serai pas là pendant au moins 3 semaines, parce que je vais être sur une jonque, n'est-ce pas? Dans le détroit du Mékong. Mon père m'emmène. Et alors, ce qui était formidable, en plus, il fallait prendre un avion pour y aller. Les avions à hélice. Le rêve, quoi. Mm. Il m'a fait une vie formidable.
C'est un homme qui aimait beaucoup les femmes aussi.
Oui, il les adorait. Elle lui rendait bien.
Mais vous avez un regard très sympathique par rapport à ça, alors que vous êtes son fils. Vous pourriez être choqué par sa vie amoureuse tumultueuse. Pas du tout.
Alors moi, je suis un homme fidèle.
Oui.
Mais j'ai trouvé l'amour de ma vie beaucoup plus tardivement que lui.
Oui.
Lui, il a commencé. Il était dans les tranchées. Et puis quelqu'un est venu expliquer que la France était en train de se dépeupler et que s'il y avait des troufions qui pouvaient revenir dans les 5 jours avec un certificat de mariage, ils avaient une perme.
Vous le racontez dans votre livre.
Et il a dit j'y vais. Il est descendu à la première gare et il a trouvé une femme. Mais il n'a pas douté une seule seconde qu'il ne la trouverait pas. Alors que s'il revenait sans le certificat de mariage, c'était le peloton.
Oui.
D'exécution.
Alors à propos de couples très fidèles, on va passer cet extrait absolu. Je crois que c'est une des plus belles entrées du cinéma français. C'est Les Amoureux sont seuls au monde.
Ah, j'adore ce film.
Que Bertrand Tavernier passe dans sa série documentaire. Oui. Avec Jouvet, il arrive dans cette petite ville. Il achète quelques porte-bonheur à un garçon. Il rentre dans cette auberge, Jouvet, et il rencontre cette femme qui fait une patience. On écoute.
Et si vous étiez au cinéma?
Si j'étais au cinéma?
Oui, imaginez que vous êtes au cinéma. Avec moi, bien entendu. Le grand film commence. Un homme, assez bien de sa personne, entre dans la salle d'un petit bistrot des environs de Paris. C'est le décor. Une femme charmante est là qui fait des réussites. Elle a laissé tomber son écharpe, il la ramasse et la lui rend. Alors, il découvre son visage. À ce moment, dans la salle du cinéma, vous vous penchez vers moi et vous me dites « Pas très jolie ». Je vous réponds « Non, elle est pire ». Sur l'écran, la scène se poursuit. L'héroïne plaît visiblement beaucoup au principal interprète. Il va pour le lui dire, mais elle lui impose silence. Alors, il insiste, elle se fâche, il revient à la charge, elle se dérobe. Mais vous, dans la salle du cinéma, vous vous tournez vers moi et vous me dites, est-ce que ça va durer longtemps, ce manège? On sait bien qu'ils finiront par s'aimer, puisque ce sont les deux vedettes. Allez, 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 qu'elle sourie enfin au monsieur et que le film commence. Voilà ce que vous me diriez si nous étions en ce moment ensemble au cinéma. Dans ces conditions, ne perdons pas de temps. Souriez-moi vite. Non?
Les Amoureux sont seuls au monde d'Henri de Coin. Bertrand Tavernier, vous le remettez en lumière, de Coin.
Je le remets en lumière. Ouais. C'est un cinéaste qui me touche. Qui me touche parce que, en plus, c'est les qualités de mise en scène, elles sont secrètes. Dans ses meilleurs films, il y a une fluidité, une aisance, une absence d'ostentation, et en même temps, on sent qu'il y a un travail rigoureux, il y a une proximité avec les acteurs. Jouvet, là-dedans, est débarrassé de ses tics.
Tous les tics.
Il est très, très pur, il est très... il est extraordinairement dément, comme la plupart du temps, les acteurs ou les actrices dans ces films. Et je crois que ça tenait à beaucoup de choses, au fait comme le dit Michel Deville, il faisait pas de découpage.
Qui a été longtemps son assistant.
Oui. Qui a été longtemps son assistant. Et donc, il attendait de voir les acteurs jouer pour savoir où placer la caméra. Et on sent ça. Mmh. On sent, à l'époque, les gens faisaient un découpage très précis. Alors, soit des personnes comme Duvivier pouvaient tout bousculer. Ils avaient suffisamment d'un talent extraordinaire qu'ils pouvaient ne pas... D'autres s'y tenaient et savaient que... Et parfois, ça rigidifiait les films. Mmh. On sent que... moi, c'était ma discussion avec Lara, je lui disais, mais comment est-ce que vous pouvez savoir que les gens vont faire 12 mètres le jeudi parce que le plan... Il disait, parce qu'il n'y aura plus de décor après. Je dis, oui, mais si ont envie de marcher plus vite, ils marcheront pas plus vite chez moi. Bon, ben oui, mais se priver de ce que peut amener un acteur, Et on voit, gamin, on voit Darieux dans les films de, c'est formidable.
On va y arriver justement à Darieux parce qu'il y a ce, parce que c'était quelqu'un aussi d'assez pessimiste quand même, de coin.
Il y a une âpreté dans ses meilleurs films. Il y a une sorte de ton noir.
Schnouf,
oui,
oui, bédonge.
Oui, c'était aussi, je pense, chez ses créateurs à l'époque, quelque chose qui les taraudait pour éviter ce qui était la hantise dans les milieux culturels, le happy end hollywoodien. Et quelquefois, de manière trop excessive de lutter. Je pense que la fin du Café du Cadran, qui est un film merveilleux.
Avec Blier.
Avec Blier, là. Si elle avait été en suspension et qu'elle n'avait pas été aussi radicale, aurait été meilleure. Il y a deux, trois petits exemples comme ça où les fins sont parce que, je pense, qu'ils sont obsédés par l'idée de ne pas faire de happy end.
D'ailleurs, dans Les Amoureux, il y a deux fins.
Oui, il y a deux fins
dans Les Amoureux. Comme dans La Belle Équipe.
Une positive et une négative.
Et ça, ça tenait... À l'époque, on ne faisait pas... C'est venu après. On ne faisait pas beaucoup de fins ouvertes. De fins là. Et qu'il aurait, en fait... C'est des cinéastes qui étaient beaucoup moins rigides, comme on a dit, et il y a plusieurs exemples où on se dit, ça aurait été mieux. Là, il y aurait une fin ouverte dans La Belle Équipe, ça aurait été plus intéressant.
C'est certain, ouais. Oui.
On va écouter un extrait justement de Bébé Donge entre justement Daniel Darieux et Jean Gabin, et deux discours donc sur deux positions sur l'amour.
Est-ce qu'il faut toute une vie pour s'aimer ou pour savoir qu'on s'aime? Ou bien est-ce que l'amour c'est quelque chose comme un éblouissement.
L'amour. L'amour, c'est comme le reste, ça se fabrique.
Dans ces conditions, comment interprétez-vous notre rencontre?
Je ne l'interprète pas, je la constate. C'est une coïncidence, sans plus.
Oh, je ne suis pas de votre avis. Tout dépend de la profondeur à laquelle les choses éclatent en nous.
Oh là là, le cœur des choses, les choses du cœur, la profondeur avec la... Quoi, qu'est-ce que vous dites?
À la surface, tout est lisse. C'est au fond que ça se passe.
Ah, vous avez de ces mots.
Vous n'aimez pas les mots?
Si, un seul. Le mot vivre. Les autres bouchent la vue. Plus ils sont grands, moins on voit ce qu'il y a derrière. Vous parlez trop.
François, ce qui se passe derrière est si simple. Seulement si je vous avais offert mes lèvres sans rien dire, vous auriez sûrement cru que j'étais une putain. Et vous ne m'auriez pas embrassée.
Didier Decoin, je crois que c'est vous qui faites la comparaison entre votre père et Simenon. D'ailleurs, ils se connaissaient, mais ils avaient des points communs, tous les deux.
Bah, ils avaient le bonheur de raconter des histoires. Ça, c'est...
Mais des petites vies, de petites gens.
Et oui, bah, la passion... papa avait quelque chose d'un entomologiste.
J'aime bien
et...
quand vous dites papa.
Ben, c'est mon papa.
Oui, non, mais c'est drôle.
Enfin, c'était mon papa.
C'est émouvant, oui.
Il pensait que les gens étaient un petit peu comme des fourmis. D'ailleurs, il avait la passion des fourmis. On le dit pas, mais il passait des heures à regarder le travail des fourmis dans le jardin. Il y avait des petites fourmilières. Et il regardait faire ça. Et alors, il m'appelait, il me dit, regarde, le mal qu'elle se donne, pour rien. On en revient au pessimisme de Decoin, qui était plus le fait qu'il ne s'illusionnait pas.
Oui.
Il ne se passait pas de film, quoi. Il faisait pas de cinéma. Peut-être parce qu'il avait connu deux guerres, et puis un départ de vie très difficile, probablement. Mais il se faisait pas d'illusions du tout.
Comme dans Toboggan, vous le disiez, Laurent, le début de Toboggan, c'est un film incroyable sur la boxe, interprété par le grand boxeur.
J'ai découvert à Lyon grâce à Bertrand, là au dernier festival Lumière.
Un début saisissant sur un bidonville
extraordinaire, ce film. Extraordinaire.
Un film sur la boxe avec Georges Carpentier.
Et qui n'est pas mauvais.
Mais qui est très bon.
Même hors du ring, il est bon.
Absolument.
Et puis, comment s'appelle la fille?
Je ne me rappelle plus. Elle est magnifique. Magnifique. Et la description du milieu de la boxe est comme ça. Il y a un réalisme, une dureté, mais qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas publicisée. Ça paraît... On parle de matchs truqués, mais comme si c'était absolument normal.
Bah, tout à fait. Hein, et alors, il y a une chose qui, moi, me touche beaucoup dans ce film, parce que je sais qu'il l'a fait comme ça, il l'a voulu, c'était très prémédité, c'est tout le début du film, donc où on voit un monde, un quart-monde, lui-même, peut-être en dessous du quart-monde, qu'est-ce que papa avait connu, lui, et il y a certains détails qui sont ce qu'il voyait de ses yeux, voilà.
Les enfants qui fument, les enfants qui fument,
ô combien. Et ce film est aussi un documentaire sur la vie cachée, la première vie d'Henri Decoin.
Mais on parle d'un film introuvable, voilà, là, parce qu'il n'existe qu'en VHS, chez un loueur à Paris, mais sinon, est-ce qu'il existe? Il n'existe pas en DVD.
Non, il n'existe pas en DVD.
Mais on va le faire exister.
Et il faut le restaurer.
Il est chez René Château.
En VHS.
Mais en VHS seulement, donc René, si tu peux faire quelque chose, ça mérite en effet une restauration. C'est un remarquable premier film. C'est pas du tout un premier film de débutant.
Pas du tout.
C'est un film qui a une maîtrise, qui est très très bien joué et très bien dialogué.
Ah oui, et il y a de belles images.
Oui.
Ça compte quand même les images aussi.
Un peu. Oui.
Il y a de belles images dans ce film.
Et parlons des critiques de Truffaut, par exemple, qui a beaucoup critiqué votre père.
Oui, alors que papa l'adorait.
Il l'appelait la truffe.
Oui, la truffe.
Au bon sens du terme.
La truffe, c'était aussi le champignon précieux qu'on trouvait, qui était caché au pied du chêne, et qui exhalait tous ces parfums merveilleux dès qu'on le sortait. Les films de Truffaut, pour papa, c'était ce qu'il aurait... Il aurait rêvé de faire les films de couple de Truffaut.
Il y a bizarrement une filiation que Truffaut a presque refusée, peut-être,
par une sorte
de position un peu idéologique à ce moment-là.
Truffaut, René, Godard moins. Mais Truffaut et René se sont déchaînés contre lui. Et alors, il lisait leur truc. Je sais plus si c'était Truffaut ou René qui avait dit « Vieux pachyderme sur le retour ». Alors papa dit « Sur le retour, je veux bien. Vieux, je peux pas le nier. Mais pachyderme,
non,
quand même. Non, tout de même pas. Est-ce que j'ai la tête d'un pachyderme? Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» C'est parce qu'il le disait pas sur ce ton-là. Non, papa, tu es très beau. Quand même, vieux pachyderme sur le retour. Il adorait la nouvelle vague.
Tout ça est raconté dans votre, je disais, un merveilleux livre qui s'appelle « Henri ou Henri » avec un « i » ou un « y », le roman de mon père qui est désormais
en poche
chez Point. Vous avez aussi parlé, bien sûr, Bertrand Tavernier, des oubliés, et parmi eux, on a choisi trois. Carlo Rim, qui était Carlo Rim?
Alors, Carlo Rim a été d'abord un scénariste épatant, et j'en parle beaucoup à propos de Maurice Tourneur, parce qu'il écrit deux films qui sont parmi les meilleurs de Maurice Tourneur, qui sont Justin de Marseille, et un film où il n'est pas crédité, Carlo Rim. Il n'y a marqué au générique le nom que de Louis Verneuil. Et c'est Christine Leteux, dans son livre sur Maurice Tourneur, qui a découvert qu'en fait, Verneuil n'a rien écrit, et que Tourneur, qui voyait pas de scénario arriver, s'est énervé, et il s'était très bien entendu avec Carlo Rim, et tous les deux ont écrit le scénario de cette comédie extraordinairement amusante et très cynique, où Maurice Chevalier joue le rôle d'un arriviste qui va avoir du succès en dénonçant, en propageant des saloperies sur les gens, en les déquillant, tout, en les faisant chanter. C'est-à-dire que on a du succès parce qu'on se conduit comme un salaud. Et en opposition, il y a le personnage que joue Lefort, qui est honnête, droit, précis, mais qui est toujours bougon et de mauvaise humeur, et donc tout le monde finit par détester, alors qu'en fait il est impeccable, il est extraordinairement honnête, et c'est un ton très très drôle, très irrévérencieux, et c'est un voilà. Et ça, Carlo Rim avait réussi ce film. Il aura une conduite remarquable. Sous l'occupation, un film qu'il voulait faire, Fernandel, l'agent du Fernandel, le lupiquera, et ce sera Fernandel qui le réalisera, Simplet.
Lequel Fernandel, on le retrouve dans L'Armoire Volante, on raconte l'histoire en deux mots, Laurent,
c'est un neveu qui perd un peu, de tout point de vue, sa tante, sa vieille tante, en partance pour un déménagement à Clermont-Ferrand pendant l'hiver.
Oui. On écoute un extrait, L'Armoire Volante.
Ah, vous voilà?
Oui.
Et ma tante?
Ah oui, c'est vrai, elle monte pas vite, hein.
Elle est en bas.
Ah oui, elle garde le camion. Elle est tellement méfiante. Alors, elle a pas eu trop froid?
Elle est morte de froid.
Ah, ben, je m'en doute, oui.
Eh bien, maintenant, elle sera tranquille.
Ah bon, ça oui. Mais vous prenez bien les choses, vous.
Hein?
T'as pas dit ça comme il faut. T'as dit, elle est morte de froid. Il faut dire, elle est morte de froid.
Ah oui, c'est mieux comme ça.
Alors, vous allez vous expliquer, oui.
Ah ben, ça vous suffit pas comme explication?
Oui, elle est morte de froid.
Morte, morte,
morte, morte.
Oh, ma tante.
Oui,
ma pauvre tante.
Elle n'a pas eu le temps de souffrir.
Ah, ça, pour une belle mort, c'est une belle mort.
Oui, quand mon copain l'a mise en bière, elle était déjà raide comme un stockfish.
En bière? Oui, quoi, elle a voulu donner une sépulture provisoire convenable.
Alors, on l'a collée dans l'armoire à glace.
Là, voilà la clé. Dans l'armoire à glace. Ma tante.
C'est un dialogue formidable.
Ouais,
c'est
l'armoire volante.
Film absolument surréaliste et très, très singulier dans l'univers du cinéma français.
Autre cinéaste méconnu que vous remettez en lumière, c'est Henri Calef, Bertrand Tavernier,
oui.
Juif communiste, qui a refusé de porter l'étoile jaune.
Et qui a passé toute l'occupation en France, et qui a été aidé par des gens qu'il a toujours rendu hommage, par Serge de Poligny, qui l'a permis de survivre, qui l'a pris comme assistant, et il est arrivé à survivre en se cachant constamment sous l'occupation. Et après l'occupation, il fera un film qui est remarquable, qui devrait être projeté dans tous les lycées, les collèges, qui est Jéricho, qui est un film choral. C'est un film avec 47 personnages importants. Il n'y a pas de vrai héros. Et qui montre aussi bien une France attentiste, une France où les gens résistent, où les gens sont dignes, mais qui montre aussi des collabos. Pierre Brasseur joue le rôle d'un ignoble collabo antisémite terrible.
Jéricho d'Henri Calef, mais nous avons choisi un autre extrait. Racontez-nous un peu l'histoire de L'heure de vérité.
Dernier film de Calef. C'est un film qui a le douteux privilège, je crois, de n'avoir jamais été distribué au cinéma, parce que je pense que la compagnie avait fait faillite. C'est un film avec une distribution assez curieuse. C'est Karl Heisbaum, l'acteur de Sissi et du voyeur de Michael Powell.
Oui, ah oui.
Corinne Marchand, qui sortait juste de Cléo de 5 à 7. Le film est entièrement tourné en Israël. Photo de Claude Renoir, musique d'Henri Sauguet, et scénario de Calef, Maurice Clavel et Edgar Morin. Dialogue d'Edgar Morin, sous un pseudonyme, et c'est l'histoire d'un officier nazi qui, voyant que tout est en train de s'effondrer, pour se sauver, se fait tatouer un numéro de déporté, de camp, et il s'enfuit comme ça en Israël, comme s'il avait survécu à un camp de concentration. Et c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie, et il va pouvoir tenir des années jusqu'à ce qu'un historien, ce qui est spécialiste de l'histoire de la déportation, vienne l'interroger sur ce camp, où il doit en témoigner du point de vue des victimes, alors que lui a été un bourreau. Sujet étonnant.
Formidable.
Sujet étonnant pour l'époque, 62. À un moment, ça n'est pas à la mode, personne n'en parle, ce ne sont pas... Et le film révèle aussi un Israël plein de bulldozers, de constructions. Je trouve que c'est une œuvre qu'il faut absolument redécouvrir.
On écoute un extrait de L'heure de vérité avec Daniel Gélin.
Il a reconnu lui-même avoir été un criminel de guerre. Conclusion, la mort. Nous agirons nous-mêmes, comme dans la résistance.
Moi, je pense qu'il faut le laisser libre. Cet homme a une conscience qui le poussait à réparer, sinon il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait depuis 12 ans. Il a une conscience qui le poussait à expier, sinon il ne serait pas resté ici. Enfin, jusqu'au moment de la révélation. Il se serait enfui avant. Pour moi, la liberté, c'est la meilleure façon, je dirais même, c'est la seule façon de développer sa conscience. C'est à la fois la possibilité de réparer et de se racheter. Oh, ça ne sera pas le bonheur pour lui, ce sera même la souffrance.
Henri Calef, donc, l'heure de vérité. On va terminer avec les femmes, parce que vous en parlez, Bertrand Tavernier, oui. il y a eu très peu oui. de femmes cinéastes, et notamment Jacqueline Audry. Je ne oui. connaissais pas son existence.
Ah, oui. C'est une réalisatrice oui. importante. Elle a fait pas mal de films. Elle a oui. ouvert la porte à beaucoup de cinéastes femmes. Elle a été traitée, disons, on peut le dire, avec une certaine muflerie mmh. par, les critiques mmh. de la Nouvelle Vague. Avec une muflerie. Il y a des films inégaux, mais bon, chez tous les cinéastes. Et elle a plusieurs réussites. Des réussites. Et en tous les cas, elle a osé aborder des sujets que personne n'abordait.
Notamment comme l'insatisfaction féminine,
oui,
sexuelle.
Oui, oui. C'est incroyable. Mmh. C'est sont parmi les seuls films... Où on parle du plaisir féminin.
Mmh, ouais.
Il y a pas d'œuvre dans le monde à ce moment-là qui ont des scènes similaires. Et elle se servait des décors de la Belle Époque, ouais. Et parfois de certains pas alibi, mais de leur littéraire. Colette, elle adaptait Jean. Mais pour montrer ça, et notamment dans un très beau film qui s'appelle Olivia. Là, avec Edwidge Feuillère, Simone Sinon, où tout le thème de l'homosexualité ouais. féminine est traité à la fois avec une franchise et une délicatesse extraordinaire.
Mais là, on va écouter un extrait, j'aime beaucoup cette conversation, dans Mine l'ingénue libertine.
On ne peut pas s'imaginer ce que je suis brillant entre 5 et 7.
Moi, je serais plutôt du matin. Quoique pourtant, l'après-midi... Ou le soir, très tard.
Riche nature.
Attendez, Mine n'a rien dit.
Ah, moi je ne sais pas, je suis trop petite. Je parlerai après elle. Moi, ça dépend de qui. Mais toutes les heures sont aussi bien.
Bravo, vous irez franchement de votre petite mort, vous au moins.
Petite mort? Non, ce n'est pas ça. C'est un peu comme quand la balançoire va trop, vous savez. Ça vous coupe en deux et en fait.
Ou bien on dit maman.
Ne riez pas, Mogis. Et on recommence.
Ah, on recommence? Oh, bravo pour l'escarpolette.
Moi, je trouve que vous êtes tous des égoïstes. Le plaisir que je donne vaut quelquefois plus que le mien. Et puis, l'escarpolette. Oh non, c'est pas ça du tout. Moi, c'est le plafond qui crève. Un coup de gong dans les oreilles. Une sorte d'apothéose qui m'est due.
Mine l'ingénue libertine de Jacqueline Audry. Tout cela est dans... ce magnifique coffret qui est une série Voyage à travers le cinéma français Bertrand Tavernier avec 3 DVD et 8 épisodes.
Chez Gaumont. Et c'est un bon cadeau pour les fêtes. Enfin, allez.
Didier Decoin, Bertrand Tavernier, vous restez avec nous. On se retrouve après Camilla Jordana et un petit battement de cœur juste avant.
Ah, je sais pas pourquoi je te cours. Tiens, lève là ton bouquet. 10 balles de foutu, peu de situation et toujours pas de papier.
À mes poignets des bijoux. À mes poignets des bijoux fermés, liés à mes pieds, dans mes veines des bateaux, dans mes veines des bateaux. Unis, il y faisait si beau, dans la Seine le poids des eaux. Le poids des eaux, il court depuis le grand saut. On sent un peu de bruine, toujours laver mes racines dans ma tête des idées. Ça dit le couteau dans les rafales, mes adieux. La France. Bander mes yeux dans ma ville des robots, des fils, ils me tournent le dos.
Tutti qui fait une...
Voilà, et Bertrand Tavernier qui parle pendant les disques, c'est pas possible. On va commencer. Mais oui.
Le dernier signon.
On va commencer par notre film préféré de la semaine, oui. On peut le dire, c'est Amanda de Michael Hirst. Paris de nos jours, David, 24 ans, c'est Vincent Lacoste, vit au présent, il jongle entre différents petits boulots et recule pour un temps encore l'heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda. Un regard doux sur un monde cruel, jamais de pathos, et Dieu sait que le sujet le suscite, est toujours à bonne distance de ses personnages, Laurent.
Ah oui, tout à fait. On pourrait paraphraser un peu le Truffaut à propos d'Hitchcock en disant que Hirst, il filme des lieux comme des personnages et des personnages comme des lieux, parce que oui, c'est une confirmation chez lui, on savait avec ses films précédents, mais là, véritablement, la façon dont il filme ce Paris fracturé, ce Paris des parcs, dans lesquels il se passe autant des choses abominables que la résilience peut se faire, que le bonheur peut se retrouver, y compris dans un parc qui serait un stade de Wimbledon. Ça, c'est très très beau. Et il y a au milieu du film, évidemment, ce couple de cinéma qui est joué par notamment Vincent Lacoste, qui est extraordinaire, qui devient, après le film de Christophe Honoré, décidément un de nos plus grands et beaux acteurs.
Oui, et Isor, la petite Isor Mutrier.
Il faut la citer parce qu'elle est formidable.
Les bonnes intentions de Gilles Legrand avec Agnès Jaoui qui incarne cette femme surinvestie dans l'humanitaire au point d'en oublier mari et enfant, et qui, pour aider ses élèves étrangers à trouver un emploi, décide de leur faire passer le permis de conduire avec l'aide d'un moniteur foireux. Voilà le pitch, portrait d'une bourgeoise bobo, aveuglée par ses bonnes intentions. Pourquoi pas, si le portrait en question n'était pas stéréotypé à ce point, presque comme une caricature des rôles que Jaoui s'est donné dans le passé, notamment dans Le goût des autres, ou plus récemment Place publique, cette femme qui reprochait, vous rappelez, à Bakri d'avoir sacrifié ses idéaux. Toujours la même rengaine, amplifiée dans ce film, enrobée de ficelles voyantes, de facilité scénaristique grossière. Mais que fait Jaoui dans cette galère?
Oui, on peut vraiment se le demander, parce qu'évidemment, sur le papier, on voit bien que l'actrice, et même plutôt la femme qu'elle est, a été séduite par le propos, mais au bout d'un moment, les préjugés racistes qu'on dénonce finissent par l'emporter. Oui. Alors moi, je ne retiens qu'une seule figure, c'est un prof d'auto-école joué par Alban Ivanov, qui est lui assez drôle. Mais ça ne sauve absolument pas le film.
Mauvaise herbe de Kéron. Wael, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu'il commet avec Monique Cédeneuve, une femme à la retraite. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, c'est du Solier, lui offre un petit job bénévole dans son centre d'enfants exclu du système scolaire. Il se retrouve responsable d'un groupe de 6 ados expulsés pour absentéisme, insolence ou port d'armes. Je vous fais grâce des flashbacks sur l'enfance de son personnage, orphelin rescapé d'un pays en guerre. C'est qui était d'ailleurs le propos principal de son film précédent, Nous trois ou rien. Le film est naïf, certes, mais truffé de bons sentiments. Cependant, on ne retirera pas à Kéron ses bonnes intentions, sa sincérité. Moi, j'ai une petite théorie sur lui. Il est fils de réfugiés politiques iraniens et il semble payer un tribut à la France pour la remercier de l'avoir accueilli avec sa famille. C'est comme une dette qu'il rembourse à travers ses films.
Ah, c'est ça.
Oui,
peut-être.
Oui,
mais alors il faudrait qu'il change de monnaie, parce qu'en matière de remboursement, on est quand même un peu, on reste sur sa faim. Non, très franchement, moi, cette façon d'essayer de surfer sur le cinéma de Nadine Labaki, par exemple, parce que c'est ça, c'est une sorte de protocole compassionnel qu'on a dans la moitié du film avec les flashbacks auxquels vous faisiez allusion, un personnage de bonne sœur aussi jeune et puis âgée, joué par Catherine Deneuve. Décidément, on a vraiment beaucoup de mal à y croire. Voilà, non, c'est un peu raté, il faut l'avouer quand même.
After My Death, un film coréen signé Kim Yoo-seok. La disparition soudaine d'une élève d'un lycée pour jeunes filles précipite la communauté scolaire dans le chaos. Pourtant, sans indice ni corps, on suspecte le suicide. L'une de ses camarades d'école, la dernière à l'avoir vue vivante, est suspectée par tout le monde. Book émissaire idéal. C'est une passionnante étude sur la jeunesse coréenne, mais qui se délite un peu dans trop de détails.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la figure de une femme disparaît, c'est une figure récurrente dans l'histoire mondiale du cinéma, et singulièrement aussi, d'ailleurs, manifestement pour le cinéma asiatique. Burning, récemment, nous a donné un extraordinaire exemple. Oui. Là, effectivement, à force de faire du polar, du fantastique, du portrait social des ados, etc., le cinéaste, effectivement, se perd dans son propre mystère, et c'est très dommage, parce que ça commençait très très bien.
Les filles du soleil de Eva Husson, au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes avec l'espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, incarnée par Emmanuel Berco, vient couvrir l'offensive et témoigner de l'histoire de ces guerrières d'exception. Voilà un film, et je pèse mes mots, irresponsable et je dirais même obscène, dans la façon dont cette réalisatrice transforme le destin de ces résistantes kurdes en roman photo, à l'eau de rose, affreusement sentimental, dégoulinant d'émotions, de musique, de dialogues stupides, indécents, manichéens, ridicules. Comment la cause de ces femmes héroïques peut-elle être dévoyée à ce point, et par une femme qui plus est, qui a pourtant passé 3 ans, ai-je pu lire, à préparer ce projet, qui est allé au Kurdistan, sur le front et dans les camps de réfugiés. Et je ne vous parle pas de la caricature de journaliste incarnée par Emmanuel Berko, qui en voix off, à la fin, nous lit carrément tout son article.
J'approuve ce message, et je suis heureux que vous l'ayez tenu vous, parce que si je l'avais tenu moi, j'aurais pu être accusé de misogynie. Je pense que c'est ça le paradoxe ultime de ce film, c'est de nous avoir été présenté comme tout à fait dans le flux actuel, dans lequel on entend des choses évidemment très très importantes, très très essentielles, mais ce film-là va à contre-courant et se tire une belle balle de Kalachnikov dans le pied.
Yom Eddin, du cinéaste, premier film du cinéaste égyptien, Abou Bakr Choki. Béchaï, l'hébreu, aujourd'hui guéri, n'avait jamais quitté depuis l'enfance sa léproserie dans le désert égyptien après la disparition de son épouse. Il décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne et vite rejoint par un jeune orphelin. Un film plaidoyer pour la compassion et la générosité. Quelque peu appuyé.
Ben oui, je voulais un égyptien lépreux, un orphelin, un âne, ça fait un trio de tête qui est quand même un petit peu appuyé, c'est dommage. C'est-à-dire, les bonnes intentions sont là, hein, ça, on les voit gros comme une maison, hein, mais hélas, ça ne fait pas un film, en tous les cas, ça ne fait pas un film qui nous nourrit assez.
Et je sais pas si vous l'avez vu, Bertrand Tavernier, nous allons terminer avec Hard Eight, le premier film de Paul Thomas Anderson.
Non, je vais m'y précipiter.
Courez.
John a perdu de son argent, il rencontre Sydney et tous deux partent pour Reno sous la tutelle de Sydney. John devient un joueur professionnel, il tombe également amoureux avec le grand Philip Baker Hall, le grand John C. Reilly et Gwyneth Paltrow. Un film qui est très intéressant à voir à la lumière de tout ce qu'il a fait après.
Exactement, parce que Paul Thomas Anderson brodait dès le départ sur la figure du mentor, celle qui explose par exemple dans The Master, et ça donne un film bigrement intéressant, y compris effectivement en le revoyant, ou en découvrant à l'aune de la filmographie suivante, mais décidément, PTA, comme on dit, Paul Thomas Anderson, c'est un des grands, grands cinéastes américains.
On va terminer par une expo qui vient de démarrer à la Cinémathèque sur le grand, très grand réalisateur égyptien, disparu il y a 10 ans, Youssef Chahine. L'expo lui ressemble, elle est sensuelle, colorée, émouvante. Les films, les costumes, ces fameux petits carnets, ces récompenses, des images très rares comme celle de la grande chanteuse Oum Kalsoum, qu'il est le seul à avoir filmé en couleur. Du spectacle, de la politique, ses engagements, Chahine, une œuvre tournée vers l'espoir et l'amour. Je me rappelle que quand il était conspué par après son film Le Destin, il disait « Je ne tolère pas l'autre, je l'aime ». Il a également la ressortie de 12 films restaurés de Chahine.
Exactement, en salle, donc si vous ne pouvez pas venir à la Cinémathèque, c'est parfait. Et aux éditions Montparnasse aussi, des DVD de Chahine.
Et un livre, Youssef Chahine, le révolutionnaire tranquille de Toufik Haken.
Voilà. On passe au cadeau?
Oui, bien sûr. Voilà.
Pour Bertrand Tavernier, d'abord, un livre, Renoir, père et fils, dans la lignée de, évidemment, de son DVD. C'est le catalogue de l'expo actuelle qui a lieu au Musée d'Orsay jusqu'au 27 janvier 2019. Il y a notamment de formidables parallèles entre le père et le fils sur une partie de campagne, c'est évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est beau de le montrer, et c'est un très très beau catalogue d'expo. Nous parlions d'Henri Decoing, voilà un Henri Decoing dont on n'a pas parlé, et pourtant c'est un très beau film, Au grand balcon, Henri Decoing sur un scénario, s'il vous plaît, de Joseph Kessel, avec de merveilleux bonus dont avec la présence notamment d'un certain Didier Decoing. C'est édité par Pathé, et nous vous l'offrons, Bertrand Tavernier, en disant à nos auditeurs que c'est un beau cadeau aussi à faire en fin d'année. L'ouvrage précédent est chez Flammarion, j'ai oublié d'en parler.
Merci, Pathé a oublié de me l'envoyer, celui-là.
Ah bah, le message est passé, Pathé. Pour Didier Decoing, on va vous offrir ce livre sur une actrice que vous connaissez, je crois. Elle s'appelait Danielle Darieux, le Stradivarius de l'écran, préface de Jean-Claude Carrière, un livre publié aux éditions Un autre regard par Jean-Noël Grandot, c'est le premier, enfin, beau livre sur Danielle Darieux, énormément de photos, très beau texte inspiré.
Il y avait le livre de Clara Laurent qui était pas mal.
C'est vrai, hein, alors là, vrai. Mais c'était pas un beau livre, là on a beaucoup de photos très belles.
La couverture est sublime.
La couverture est sublime, voilà, donc c'est vraiment l'ouvrage qui rend hommage à la beauté de Dédé. Voilà, on est heureux de vous l'offrir également. Et puis, une autre beauté, une certaine Rita Hayworth avec La Dame de Shanghai, scénario et production d'Orson Welles, un sublime sublime coffret film avec un livret notamment que publie Carlotta aussi pour la fin de l'année, il faut le dire. Donc cadeau pour vous, Didier Decoin, conseil à nos auditeurs. Vous retrouvez d'ailleurs tout ça sur notre site franceinter.fr, toutes les références de nos cadeaux. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à
Didier Decoin, je rappelle votre livre Henri ou Henri.
Henry ou Henri.
Oui, Henry, ouais. Et cette grande série documentaire de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français. C'est une série, ça n'a rien à voir avec le film,
c'est encore plus.
Oui, merci vraiment Bertrand Tavernier d'honorer comme ça le cinéma français, et merci pour ce document assez exceptionnel. On se quitte, on vous dit au revoir, mais on laisse le générique à nos deux invités.
Mademoiselle, vous pouvez disposer. Serge, ce soir, mon vieux, vous me laissez le plateau, n'est-ce pas?
Oui, patron.
Bonne guerre.
Oui.
Nous le répétons à l'orchestre ce soir, naturellement.
Naturellement.
Francis.
La voilà, patron.
Alors, prêtons.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Rebecca de Nantes s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Xavier Pestuccia.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Didier Decoin, j'y étais.
Et moi, Bertrand Tavernier, j'y étais.